Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Troisième numéro de la série de divertissement d'André Gillois, Jouons le jeu, que diffusait la chaîne parisienne en 1951. Divertissement composé autour d'un caractère, qualité ou défaut propre à chacun, au son de l'orchestre dirigé par Jean Vienner. Après la timidité et la paresse, c'est l'impatience qui était le thème de celle-ci, à travers des chansons, des lectures, des citations, des extraits de pièces de théâtre et des jeux. Des couples jouaient pour une bouilloire électrique, un fer à repasser, un grille-pain, une paire de chaussures, un portefeuille ou un porte-cigarette. Alors que les auditeurs pouvaient rêver de la 4 chevaux Renault qui leur tendait les pneus. Pierre Brasseur, sur scène cette année 51 dans Le Diable et le Bon Dieu de Sartre, mis en scène par Jouvet, parlait lui de sa propre impatience. Et pour finir, on jouait au qui est-ce, une joute d'érudits opposant l'équipe masculine composée de Jean Oberlé, Maurice Clavel et Emmanuel Berle à celle des dames, Marie-Louise Villiers, Françoise Giroud et Madame Simone.
Jouons le jeu, une émission d'André Gillois. Nous vous rappelons que Jouons le jeu fait l'objet d'un grand concours dont le règlement sera donné tout à l'heure, ainsi que la liste des prix. Nous vous rappelons également que la télévision diffuse le dimanche et le lundi une version filmée de Jouons le jeu que les cinémas projettent la même semaine. Écoutez André Gillois qui va vous présenter Jouons le jeu.
Le caractère autour duquel ce soir s'organisera cette émission est l'impatience. Vous reconnaîtrez-vous parmi les impatients et les traits d'impatience qui vous seront rapportés, je ne sais. Autant on a tendance à se trouver toutes les maladies dès qu'on en décrit les symptômes, autant on hésite à se reconnaître devant un portrait un peu accusé ou accusateur. « Je connais tout fort que moi-même », disait déjà François Villon.
« Je connais bien mouches à lait. Je connais à la robe l'homme. Je connais le beau temps du lait. Je connais au pommier la pomme, je connais l'arbre à voir la gomme, je connais quand tout est de même, je connais qui besogne ou chaume, je connais tout, fort que moi-même. Je connais pourpoint au collet, je connais le moine à la gonne, je connais le maître au valet, je connais au voile la nonne, je connais quand piqueur jargonne, je connais fou nourri de crème, je connais le vin à la tonne, je connais tout, fort que moi-même. Je connais cheval du mulet, je connais leur charge et leur somme, je connais Biétrix et Bellet, je connais jet qui nombre et somme, je connais vision en somme, je connais faute des bohèmes, je connais fils, valet et homme, je connais tout fort que moi-même. Prince, je connais tout en somme, je connais colorés et blêmes, je connais mort qui nous consomme, je connais tout fort que moi-même.
Et voici maintenant Pierre Brasseur, l'impatient Pierre Brasseur, qui va nous parler de son défaut. Pierre Brasseur.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens pas impatients dans notre métier.
Comment se manifeste cette grande impatience?
Par exemple, je fais partie des imbéciles qui prennent deux pilules quand le docteur en a prescrit une, pour, croyant rater la guérison. J'achète des voitures d'occasion, qui reviennent plus chères d'ailleurs, naturellement. Mais je n'ai pas la patience d'attendre que les neufs sortent de l'usine. Je coupe les pages avec mon doigt quand je lis un livre passionnant, enfin, etc.
Mais ça, ce sont les gestes de l'impatient actuel. Comment est-ce que ça a commencé? Quand vous étiez jeune, déjà?
Tout petit, ça a commencé dans un jardin public. Ma mère, je devais agacer, je devais avoir une certaine impatience, enfin, comme vouloir fouiller dans le sac pour avoir un bonbon ou quelque chose dans ce genre-là. Elle me dit, fiche le camp, et va me cueillir une fleur. Il fallait que je fasse le tour du gazon, je prenne un tas de précautions, ça me paraissait très compliqué, je voulais tout de suite atteindre le but et apporter une fleur à ma mère. Alors, j'ai pas hésité, j'ai été cueillir une fleur sur le chapeau d'une dame qui tricotait un peu plus loin.
C'est pas mal, ça, c'est l'impatience dans les jeux. Et alors, dans le travail, ça devait faire de vous un mauvais élève, non?
Ben oui, mon Dieu, j'étais pressé d'écrire des cartes postales, comme les grands, les petits mots de Noël, les petits mots de jour de l'an. Enfin, alors, j'ai négligé les bâtons, les pleins et les déliés, résultat une mauvaise écriture. Mais enfin, ça ne fait rien, l'avenir n'a pas fait de moi une machine à écrire, mais une machine à parler, alors, ça n'a pas d'importance. Quand j'ai travaillé le dessin, fichu à la porte, d'ailleurs, parce que je mettais de la couleur tout de suite. Ben, je continue, d'ailleurs, quand il m'arrive de peindre, mais alors je mets un peu plus de peinture que de dessin, mais ça m'amuse plus longtemps. Il faut que je recommence tout après. J'ai négligé un peu mes études, bien sûr, parce que je pensais surtout aux représentations que je donnais sous le préau. Mais je n'apprenais pas le texte, naturellement, parce que c'était trop long. Il fallait aller tout de suite, arriver tout de suite au résultat. Alors on l'inventait. J'avais découvert la comédia dell'arte. Alors j'attendais pas non plus, naturellement, qu'on nous ait préparé des costumes. On se déguisait avec des tabliers. Au conservatoire, j'ai été recalé la première année. Je n'ai pas attendu un an, naturellement, pour me représenter. Alors, je ne me suis pas représenté. Je suis parti en tournée tout de suite. D'ailleurs, je crois que j'ai appris mon métier, là. Ça, je me faisais un peu attraper par les acteurs parce que je voulais à tout prix faire des effets et me faire remarquer. Hein, à défaut des mots de l'auteur, j'avais mon mot à dire. Enfin, j'étais sans doute pressé de voir si je pouvais continuer ce métier-là. Enfin, je voulais une preuve.
Heureusement, vous avez continué. Mais en dehors de ce métier-là, vous en avez exercé un autre qui a consisté à écrire des pièces, ou en tout cas une pièce. Alors là, l'impatience de l'écrivain se manifestait comment?
Enfin, j'écrivais quand j'étais très gosse. Enfin, j'avais l'impression qu'au lieu d'écrire un livre, je mettrais plus de temps à corriger les épreuves qu'à écrire le manuscrit. Il me semblait que travailler sur des mots imprimés, c'était plus sérieux que de travailler sur son propre monstre. D'ailleurs, la seule pièce qui a bien marché, enfin, qui était à peu près réussie, c'est une pièce que j'ai écrite en 15 jours et que j'ai refait une dizaine de fois.
Et au cinéma, comment se manifeste cette impatience? Ça doit être bien difficile.
C'est pas permis, alors. Voilà. Ça, c'est... Oui, ça... Non, parce que le cinéma est déjà un art d'impatient. Et ils veulent tout faire voir à la fois. Ils veulent arriver tout de suite au résultat. Alors, si je suis souvent excessif au cinéma, c'est que je suis pressé de montrer le personnage par tous les bouts, toutes les faces. J'ai peur d'en oublier. À moi, si le sujet lui-même me retient par sa logique, sa continuité, ça va, mais si le metteur en scène a un bon métronome. Mais je déborde souvent de la vie quotidienne. C'est mon rêve, d'ailleurs. Mais celui que je souhaite au spectateur. Évidemment, le cinéma est le seul art qu'on ne peut pas corriger. Il faut que c'est terminé. Le premier jet doit être longuement mûri. Et comme on a environ une demi-heure pour se décider à tuer son père et sa mère ou à aimer une femme pour la vie, alors ça ne peut pas s'arranger.
Et au théâtre?
Alors là, au contraire, au théâtre, l'impatience me sert. Parce que je n'ai pas envie de voir naître le personnage. J'ai tout de suite envie de le voir vivre. Alors je le joue tout de suite, aux répétitions. Enfin, Et puis après, ça me permet de le retoucher, de lui inventer une jeunesse, un sens, des désirs. Enfin, ça me permet de le compléter. Compléter m'empêche d'avoir l'impression que c'est terminé. Enfin, réfléchir avant, à mon avis, en tout cas, pour ce métier-là, c'est réfléchir dans le vide, sans point de repère. Plus on a travaillé avant, plus on a de scrupules à corriger après. C'est toujours désagréable de démolir ce qu'on a perdu du temps à construire. Alors, ça me permet de faire des progrès, continuer à chercher à améliorer un personnage tous les soirs, enfin, surtout en jouant. Et parce que si je devais recommencer, imiter le travail que j'aurais fait sur un personnage, j'aurais l'impression de radoter.
Est-ce que vous avez l'impression que cette impatience vous singularise?
Non, l'impression de vivre le rythme de mon époque, enfin. On est pressé de détruire, pressé de construire, pressé de tuer, pressé de guérir. Enfin, bombe atomique, mais la pénicilline, maison préfabriquée, etc. Je me sers beaucoup plus des SVP, par exemple, que d'un dictionnaire ou de mes relations. Quand il m'arrive de plonger dans le Larousse illustré, alors c'est l'impatience de trouver la patience du repos. Il m'arrive de me reposer pendant 2 heures avec la paresse d'un mois de vacances.
Vous êtes en somme un homme pressé.
Non. Pressé, mais pas pour terminer, mais pour passer à autre chose. Bon, Dans le fond, ça doit s'appeler l'amour de la vie, ça, non? Au début de mon existence, je crois que l'impatience, c'était un amour de la vie. Je voulais tout de suite la fleur, planter, semer, arroser, soigner, ça me donnait l'impression de perdre du temps. J'avais aussi l'impression de perdre du temps quand je dormais. Je change et je crois que c'est nécessaire. Et puis aujourd'hui, mon impatience est un amour de la construction. Pas avec les moyens rationnels, mais construire à l'envers, avoir tout de suite une vue du résultat pour savoir si ça en vaut la peine, et puis fignoler après, éclairer, ajouter. C'est peut-être faire de l'art.
Génie aux longues impatiences.
C'est Paul Valéry qui l'affirme.
Ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être ou de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas.
L'impatience amoureuse est, de toutes les impatiences, celle que, bien entendu, les poètes ont le plus chantée.
Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Qui peut tranquillement attendre, plus jamais le cœur tendre. Ah, qui peut tranquillement attendre,
d'absence, après 8 siècles de désir, j'arrive, et ta froide prudence recule l'instant du plaisir promis à mon impatience.
D'une mer je crains les yeux, les nuits ne sont pas assez sombres. Attendons plutôt qu'à leur ombre, Phébé ne prête plus ses feux. Ah, si on allait nous surprendre, remets à demain ton bonheur, croisant l'amante la plus tendre, croisant ses yeux et sa rougeur, tu ne perdras rien pour attendre.
Voilà les vains raisonnements dont tu veux payer ma tendresse, et tu feins d'oublier sans cesse qu'il est un dieu pour les amants. N'oppose plus un vain scrupule à l'ordre pressant de l'amour quand le feu du désir nous brûle. Hélas, on vieillit en un jour.
Qu'un amant toujours devance sa maîtresse au rendez-vous, plus il a d'une patience, plus mon bonheur sera doux, plus son bonheur sera doux. Un empressement trop éteint souvent nos désirs. Un empressement trop tendre éteint souvent nos désirs. Beauté, faites-vous attendre, vous ménagez nos plaisirs, vous ménagez nos plaisirs. Un empressement trop tendre éteint souvent nos désirs. Beauté, faites-vous attendre, vous ménagez nos désirs.
L'histoire fourmille de gestes impatients. Tous les conspirateurs ont été des impatients, et la plupart des héros. Et Louis XIV disant « j'ai failli attendre », et Napoléon prenant des mains du pape la couronne impériale pour s'en coiffer lui-même. L'impatience, comme la langue, est la meilleure et la pire des choses. Jean-Pierre Morphée va nous dire ce qu'elle a donné au théâtre.
Au théâtre, il faut aller vite, ne pas laisser tomber le mouvement, disent les gens de métier. Et puis, il y a eu la règle des trois unités, unité de temps, toute l'action accomplie en 24 heures. Alors, les événements se précipitent, les sentiments à peine nés sont déjà à maturité. Voilà pourquoi, en dehors de quelques impatients véritables qui ne peuvent vraiment ni attendre ni endurer, tous les autres personnages de théâtre nous paraissent accomplir, avec une extrême hâte, des actes qui, dans la vie quotidienne, eussent été plus médités. Naturellement, il y a l'impatient véritable, le caractère soupolé, les pieds qui trépignent, la main prompte. C'est la biche qui nous en fournira l'exemple. Non pas avec un jeune homme pressé où la hâte n'est qu'un ressort de vaudeville, ni avec le capitaine Tic, qui est surtout un irascible assez satisfait de lui, mais avec Madame Le Grénard de la main leste. Et puis, nos timides, nos paresseux ont été des hommes. Il est juste que les femmes viennent nous offrir aussi leurs petits défauts.
Voyons, as-tu fini de prendre ton café?
Un moment, il est trop chaud.
Alors pourquoi le demandes-tu toujours bouillant?
Pour le laisser refroidir, j'aspire l'arôme.
Ah, si tu crois que c'est amusant de devoir renifler pendant une heure?
Le café se prend deux fois. Premièrement par le nez, secondement...
Oh, que c'est agaçant, un homme comme ça. Ce qui me crispe, c'est de voir ta fille.
Moi, maman, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Elle est là, en arrêt devant la tasse, immobile, comme une momie.
Ah, ma femme, écoutez...
Oh, ma parole, je ne sais pas en quoi vous êtes bâtis tous les deux.
Je ne peux tout de même pas forcer papa à se brûler si le café est trop chaud.
Trop chaud? Ce café, là? Tiens, voilà comme il est chaud. Je le bois.
Et je m'en passerai, moi. Ah, mais tu me l'as fait trop souvent, celle-là.
Bah, un mouvement d'impatience.
Voilà l'impatience. C'est certainement, tu as mille qualités. Mais c'est pas du sang que tu as dans les veines, c'est du salpêtre. Et puis tu as un défaut terrible.
Lequel?
C'est ta main.
Ah oui, par exemple.
C'est la foudre. Elle part comme une bombe et retombe comme une grêle.
On ne parle pas de ça.
Je sais ce que je dis. Mais que tu gifles mes ouvrières, c'est une autre histoire. Avec ta pétulance, tu as failli compromettre la prospérité de notre fabrique de fleurs artificielles dont je t'avais donné la direction. Tu entrais dans l'atelier et à la moindre observation, vlan. C'est pas du commerce, ça.
Des flâneuses! Ça les faisait travailler.
Ça les faisait mettre en grève. Et nous ne trouvions plus personne pour les remplacer. C'est alors que je t'ai prié de ne plus te mêler des affaires. Et j'ai placé Céline à la tête de l'atelier. Nous prenons des demoiselles par la douceur, nous. Nous ne les giflons pas, nous. Quand elles demandent de l'augmentation, nous leur donnons de bonnes paroles, nous. Et notre petit commerce marche très bien.
Je bouge tout le temps, je bouge tout le temps, j'ai la bougeotte au diable encore, je bouge tout le temps, je bouge tout le temps, je bouge tout le temps, j'ai la bougeotte au diable encore, je bouge tout le temps.
Mais la tragédie même est remplie d'impatients. Achille déplairait moins bouillante et moins prompt. Et Polyeucte. Et Horace, qui ne balance pas un instant pour tuer sa sœur après avoir tué ses trois beaux-frères. L'impatient Néron cesse de se contraindre, dit Agrippine. Impatience de la passion politique et du pouvoir qui anime tous les héros des conspirations de Shakespeare, jusqu'à Richard qui interrompt un cortège funèbre pour faire à la veuve sa déclaration. La jeunesse est impatiente. C'est, chez Molière, un de ses traits les plus constants. Par impatience, Damis sort trop tôt du cabinet qui lui permettait d'entendre l'entretien de Tartuffe et d'Elmire, et par impatience, il fait éclater l'affaire au risque de l'empêcher d'aboutir.
Non, madame, non, ceci doit se répandre. J'étais dans cet endroit où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit.
Non, Damis. Il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage.
Vous avez vos raisons pour en juger ainsi, et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie, et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux et que trop excité de désordre chez nous.
Damis.
Non, s'il vous plaît, il faut que je n'en croie. Mon âme est maintenant au comble de la joie, et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger.
À la vérité, Damis ne se venge pas, car Orgon, trop facile à tromper, met l'impatient Damis hors de sa maison.
Que les moments me semblent longs et que rien trouve plus de bon quand je les passe en votre absence. Mais quelque long que soient les jours, hélas que je les trouve
l'amour a sa grande part de responsabilité dans cette obstination à se nuire par trop de hâte. En pressant l'autre, en refusant ses dons que le temps apporte tout seul, on voit fuir l'objet de ses vœux. Et le thème de Psyché, perdant l'amour pour lui avoir demandé son nom, propose, parmi d'autres, cette vérité profonde qu'en amour, il faut savoir se contraindre et attendre.
Seigneur, je vous adore et vous m'aimez. Mon cœur en est ravi, mes sens en sont charmés. Mais parmi ce bonheur suprême, j'ai le malheur de ne savoir qui j'aime. Dissipez cet aveuglement et faites-moi connaître un si parfait amant.
Psyché, que venez-vous de dire ?
Que c'est le bonheur où j'aspire. Et si vous ne me l'accordez ?
Je l'ai juré, je n'en suis plus le maître. Mais vous ne savez pas ce que vous demandez, laissez-moi mon secret. Si je me fais connaître, je vous perds et vous me perdez. Le seul remède est de vous en dédire.
C'est là sur vous mon souverain empire.
Vous pouvez tout et je suis tout à vous. Mais si nos feux vous semblent doux, ne mettez point d'obstacle à leur charmante suite. Ne me forcez point à la fuite. C'est le moindre malheur qui vous puisse arriver d'un souhait qui vous a séduit.
Seigneur, vous voulez m'éprouver, mais je sais ce que j'en dois croire. De grâce, apprenez-moi tout l'excès de ma gloire et ne me cachez plus pour quel illustre choix j'ai rejeté les vœux de tant de rois.
Que voulez-vous ?
Souffrez que je vous en conjure.
Si vous saviez, Psyché, la cruelle aventure que par là vous vous attirez.
Seigneur, vous me désespérez.
Pensez-y bien, je puis encore me taire.
Faites-vous des serments pour n'y point satisfaire ?
Eh bien, je suis le dieu le plus puissant des dieux. Absolu sur la terre, absolu dans les cieux, dans les eaux, dans les airs. Mon pouvoir est suprême. En un mot, je suis l'amour même. Qui de mes propres traits m'était blessé pour vous, et sans la violence, hélas, que vous me faites, et qui vient de changer mon amour en courroux, vous m'alliez avoir pour époux. Vos volontés sont satisfaites. Vous avez su qui vous aimez, vous connaissez l'amant que vous charmez. Psyché, voyez où vous en êtes. Vous me forcez vous-même à vous quitter.
Du dieu d'amour, la voix me
durant les impatients. La vie est trop courte, la vie est trop pareille. C'est elle qu'il faut contraindre. Il faut tenter de tout incliner à sa mesure, même le temps. Je suis passé une fois sur un trottoir à côté de deux étudiants. L'un disait à l'autre, et puis, à 60 ans, tu as une retraite. Pour certains, la vie ne commence pas à la retraite. C'est tout de suite et tout entière qu'il a leur faux. Le mythe d'Orphée, avec ses autres symboles, est aussi celui de l'impatience. Endure de ne pas te retourner vers Eurydice jusqu'à la sortie des enfers, et tu la retrouveras vivante. Orphée se retourne. Jean Anouilh, qui a repris le vieux thème, nous fait entendre ce dialogue.
Le jour va se lever bientôt, mon chéri. Et tu pourras me regarder.
Oui. Jusqu'au fond de tes yeux. D'un coup, comme dans de l'eau, la tête la première. Au fond de tes yeux. Et que j'y reste. Que je m'y noie.
Oui, mon chéri.
Parce qu'à la fin, c'est insupportable d'être deux. Deux peaux, deux enveloppes bien imperméables autour de nous. Chacun pour soi. Avec son oxygène, avec son propre sang, quoi qu'on fasse. Bien enfermé, bien seul dans son sac de peau.
Tiens-toi fort contre moi.
Oui. Une chaleur. Une autre chaleur que la sienne. Cela, c'est quelque chose d'à peu près sûr. Je ne suis pas tout à fait seul. Il ne faut pas être exigeant.
Demain, tu pourras te retourner.
Oui.
Tu m'embrasseras.
Oui. Je croirai pendant une minute que nous sommes deux tiges enlacées sur la même racine. Et puis nous nous séparerons et nous reviendrons deux. Deux mystères. Deux mensonges. Deux.
Ne parle plus. Ne pense plus. Ne me demande rien, toi non plus. Nous nous aimons, nous sommes jeunes. Nous allons vivre. Accepte d'être heureux, s'il te plaît.
Je ne peux pas.
Alors tais-toi, au moins.
Je n'en peux plus maintenant, il faut que je te regarde.
Attends, attends. Oh, s'il te plaît. Ce qu'il faut, c'est sortir de la nuit. C'est bientôt le matin. Attends. Tout va redevenir simple.
C'est trop long d'attendre le matin. C'est trop long d'attendre d'être vieux.
Oh, s'il te plaît, mon chéri, ne te retourne pas. Ne me regarde pas. À quoi bon? Laisse-moi vivre. Je ne suis peut-être pas celle que tu voulais que je sois. Mais tu me sens, n'est-ce pas, contre toi? Je suis là. Je suis chaude, je suis douce. Et je t'aime. Ne me regarde pas. Laisse-moi vivre. Dis, je t'en prie, j'ai tellement envie de vivre.
Vivre. Vivre! Comme ta mère et son amant, peut-être. Avec des attendrissements, des sourires, des indulgences et puis de bons repas. Après lesquels on fait l'amour et tout s'arrange. Ah non. Non, je t'aime trop pour vivre!
Il se retourne, il la voit telle qu'elle est. Il ne la retrouvera plus telle qu'il la souhaitait que dans la mort.
Sur l'impatience des amants, écoutez encore cette chanson du 18e.
C'est un amant, ouvrez la porte. Il est plein d'amour et de foi. Que faites-vous?
En somme, on peut, avec de bonnes excuses et de bonnes références, affirmer que l'on est impatient. Voyons, en partant de ce trait de caractère, ce que donnent nos petites questions hebdomadaires. Je vais laisser Fernand Rosena interroger nos jeunes mariés. Mais Mireille va leur faire prendre patience un instant.
Moi, que c'est long de jour, sans te voir mon amour, sans te voir le matin, sans te voir à midi. J'ai pleuré sur mon lit et dans le porte-parapluie. Passe encore pour les deux jours, mais que c'est long. Oh, quel ennui, mais que c'est long de nuit. Lorsque Monsieur Malbrou partait en guerre, la pauvre Madame Malbrou dans son triste château ne riait guère. Mais je m'en fous de Madame Malbrou. Et quand Christophe Colomb en caravelle. Quitter sa femme, c'était long. Tu m'as dit en partant, souviens-toi d'elle. Mais je m'en fous de Madame Colomb. Oh, que c'est long de jour, sans te voir, mon amour, sans te voir le matin, sans te voir à midi. J'ai pleuré sur mon lit et dans le porte-parapluie. Passe encore pour les deux jours, mais que c'est long. Oh, quel ennui, mais que c'est long de nuit. Dans ma chambre à coucher, triste et cruelle, j'ai lu, j'ai cousu, j'ai pris des cachets, j'ai cassé de la vaisselle, sans t'oublier, mon pauvre chéri. Les femmes de marin, mais comment font-elles quand elles attendent leur mari? Il y en a qui font, dit-on, de la dentelle. Il va falloir que j'apprenne aussi, bah, que c'est long de jour, sans te voir, mon amour, sans te voir le matin, sans te voir à midi. J'ai pleuré sur mon lit, j'en ai le cœur tout démoli. Passe encore pour les deux jours, mais que c'est long, oh, quel ennui, mais que c'est long, mais que c'est long, mais que c'est long de nuit.
Et maintenant, jouons le jeu avec Fernand Rosena.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est placée sous le signe de l'impatience. Sans doute êtes-vous impatient d'entendre les concurrents, et ceux-ci d'ailleurs sont-ils aussi impatients de savoir si l'impatience est le trait de caractère principal. Mais je demande à tous quelques minutes de patience en attendant ces questions sur l'impatience. Je voudrais en effet vous rappeler que les concurrents recevront tout à l'heure des prix offerts par les laboratoires Appel. Ces laboratoires travaillent d'une façon objective et uniquement dans l'intérêt des consommateurs. La petite étiquette Appel, mise sur un appareil électrique d'une marque quelconque, signifie seulement que cet appareil a subi un certain nombre d'épreuves permettant de contrôler sa sécurité, sa solidité et sa moindre consommation, ce qui n'est pas sa moindre qualité. Cela est vrai pour les simples fers à repasser, bouilloires, grille-pain qui seront remis aux concurrents. Mais c'est également vrai aussi pour les appareils plus importants, des fours de cuisine, des machines à laver, des aspirateurs, etc., etc., etc. Et tout cela figure parmi les prix du concours ouvert entre les auditeurs et dont on vous rappellera le règlement tout à l'heure. Ceci expliqué, ceci dit, place aux concurrents. Ce sont, je le rappelle encore, trois jeunes mariés dont les maris seront interrogés ensuite sans que vous sachiez qui est marié avec qui, puisque c'est cela que vous aurez à deviner et qui fera l'objet de votre réponse. Ils vont être interrogés, ces concurrents, d'abord les trois dames, par Catherine Gris, Maître Chalandre des Moutiers des Tours et Gisèle Boyer. Eh bien, nous allons commencer immédiatement et je vais faire venir la première concurrente, qui se prénomme Gisèle. Catherine Gris.
Madame, imaginons un jour d'affluence, un jour de réclame dans un magasin. La cliente qui vous précède ne peut arriver à fixer son choix et le cil entre, mettons, un tissu gris, un tissu rouge foncé, des rayures. Qu'est-ce que vous faites?
Je crois que je pars et que je reviens une demi-heure plus tard.
En admettant que vous ayez payé un objet très cher, trop cher, et que votre mari vous en fasse le reproche quand vous rentrez chez vous et que vous le lui montrez, vous le jetez par terre, vous dites comme ça on n'en parlera plus?
Non.
Est-ce que vous avez quelquefois la sensation d'avoir la gorge nouée dès que l'on vous contrarie?
Dès que l'on me contrarie, non. Enfin, il m'arrive de me mettre en colère, évidemment, comme tout le monde. Mais enfin...
La gorge nouée, c'est quand on vous interroge aussi, peut-être. Ça peut arriver. Réagissez contre cette question insidieuse. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir la gorge nouée, par moment, dans certaines circonstances? Quand on vous ennuie, quand on vous embête, quand on vous interroge? Hein? Oui.
Hein? Ben, quelquefois, mais enfin, c'est de... J'étais très timide et dangereuse, mais c'est de plus en plus rare, je dois dire.
Ça s'arrange.
Oui, eh bien, madame, je crois que vous êtes très patiente.
Maître Chalandre des Moutiers des Tours.
Si votre mari a une nouvelle collaboratrice à son travail, est-ce que vous poussez l'impatience jusqu'à vous précipiter tout de suite à son bureau pour voir la tête qu'elle a?
Eh bien, je n'ai jamais été au lieu de travail de mon mari et... Non, je ne crois pas.
Non. Pensez-vous, madame, que ce soit une bonne tactique de parler en public avec un air de martyr des bijoux, de la robe ou du chapeau que votre mari tarde à vous offrir?
Oh, non, je ne crois pas. Ça non. peut l'impatienter, l'énerver.
Oui, vous connaissez peut-être pas très bien encore la vanité masculine, peut-être. Est-ce un excellent moyen? Je ne voudrais pas avoir des histoires avec votre mari, ni vous donner des conseils. Ça prouve que vous êtes patiente, vous attendrez qu'il vous l'offre. Que pensez-vous de cette opinion émise par une association féminine britannique? Le mari parfait, c'est celui qui meurt pendant sa nuit de noces.
Je ne trouve pas que ce soit l'idéal.
Vous ne trouvez pas que ce soit l'idéal?
Non.
Vous n'avez pas la mentalité d'une montre religieuse.
C'est un peu court, jeune homme.
Vous ne poussez pas la patience jusque-là.
Non. Bon.
Moi, je crois en effet que vous êtes patiente.
Merci. Gisèle Boyer.
Lorsque vous faites du thé, est-ce que vous débouchez sans arrêt votre bouilloire électrique pour voir si l'eau bout ou est en train de bouillir?
Je n'ai pas de bouilloire électrique.
Est-ce que vous soulevez le petit chapeau?
Enfin, au moment où il y avait des restrictions de gaz, je m'impatientais parfois.
Êtes-vous nerveuse lorsque se multiplient le soir les réunions que votre mari vous dit d'affaires?
Ma foi, il ne m'a jamais accablé.
Vous n'avez pas encore dit ça. Ça va venir, ça va venir.
Ah, elle est optimiste.
Lorsque vous lisez un roman policier, est-ce que vous regardez tout de suite la dernière page pour savoir qui est l'assassin?
Je lis rarement des romans policiers, mais de toute manière, je ne regarde jamais la dernière page. Je n'aime pas savoir la conclusion d'un film ou d'une pièce de théâtre.
Vous sentez-vous énervée lorsque votre mari parle avec un ami d'une femme que vous ne connaissez pas?
Non.
Non, vous n'essayez pas de savoir qui c'est, comment elle est, si...
Non.
Non. Ah ben, vous êtes très patient.
C'est très bien. Eh bien, Gisèle, nous vous remercions et nous vous applaudissons. Merci beaucoup. Et voici maintenant Geneviève, notre concurrente numéro 2. Geneviève, approchez-vous. Geneviève est blonde. Geneviève a un petit manteau à carreaux. Et Geneviève va répondre aux questions que Catherine Gris va commencer de lui poser.
Imaginez-vous, madame, dans un autobus très encombré. Le receveur vous dit « Allez, allez, ne restez pas dans le couloir. Vous ne pouvez pas bouger. Qu'est-ce que vous faites? Vous souriez? Vous ne répondez pas? Vous haussez les épaules? Ou vous l'envoyez promener? »
Je dis « Il n'y a pas de place. Je ne peux pas faire autrement. »
Tout aussi gentiment.
Enfin, ça dépend sur le ton qu'il me parle.
Très bien.
S'il est agressif, je le suis.
Parfait. Pensez-vous qu'un homme au tempérament calme puisse être un bon catcheur?
Oh oui.
Oui?
Oui.
Ça n'a rien à voir avec la patience,
non,
la brusquerie, la colère, la force?
Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose avec le sport. C'est tout à fait indépendant.
Donc je suppose que pour vous, brusquerie et brutalité ne sont pas synonymes.
Ah non, non. La brutalité est plutôt un synonyme de méchanceté, de...
Pas d'impatience.
Ça peut arriver.
Aussi, n'est-ce pas?
Mais...
Ça peut arriver.
Je crois, madame, que vous n'êtes pas particulièrement impatiente.
Très bien. Maître Chalandre des Moutiers des Tours.
Patience! Nous allons voir.
Ah!
Est-ce qu'à la fin des vacances, madame, vous êtes impatiente de retrouver votre foyer? Est-ce que le retour au foyer, avec tout ce qu'il comporte pour vous de soucis et de travaux, représente pour vous une joie sans mélange? Ou teintée d'une légère mélancolie?
Teintée d'une légère mélancolie.
Teintée d'une légère mélancolie.
Mais malgré l'adage, la femme au foyer, quand
vous
même...
Vous n'êtes pas tellement impatiente que cela de retrouver votre foyer, et d'ailleurs le mari que vous y avez laissé, probablement.
Non, parce qu'en principe, il part avec moi.
Ah, tout s'explique.
Voyons donc.
Que pensez-vous, madame, de l'appréciation d'un auteur célèbre que la femme vertueuse a dans le cœur une fibre de plus ou de moins que les autres femmes? Elle est stupide ou sublime?
Je pense qu'elle est plutôt sublime.
Qu'elle est plutôt sublime.
Parce que, mon Dieu, elle résiste à pas mal de tentations.
C'est très bien, madame.
Gisèle Boyer.
Quelle serait votre attitude si, au cours d'une scène, votre mari cassait toute la vaisselle?
Je crois que je prendrais ce qui resterait, puis je le casserais aussi.
Si les morceaux en sont bons, bien entendu.
Lorsque votre mari rentre, est-ce que vous essayez de trouver une trace de poudre sur son épaule ou un parfum ou un peu de rouge sur sa cravate ou sur son mouchoir?
Oui, petite acquisition.
Oh non, non.
Non.
Non, vous avez confiance, enfin.
Si vous voyez une petite tache, vous la brossez. C'est de la poussière.
Dans le métro ou l'autobus, mon
oui,
Dieu,
ça arrive, ça arrive. Ça arrive.
Ah bon, vous y croyez?
Bien
Est-ce que
sûr.
Vous laissez votre mari sorti seul une fois par semaine?
Oui, il sort quelquefois sans moi.
Et lorsqu'il rentre, vous lui demandez où il était?
Oh, je le sais d'avance.
Il lui dit avant, pardi, il m'en fout.
Merci beaucoup. Et voici notre concurrente numéro 3, Irène.
Que pensez-vous, madame, des parents qui donnent une gifle à leur enfant au lieu de leur fournir l'explication qu'ils leur demandent depuis plusieurs minutes?
Mais je n'admets pas ça.
Vous n'admettez pas ça?
Non. Non, j'estime qu'il faut donner une explication à l'enfant, enfin, le raisonner au lieu de battre.
Si... Oui, oui.
Il y avait dans le temps des femmes qui conduisaient des taxis. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu, vous-même, faire un parfait chauffeur de taxi?
Non, je ne crois pas.
Non?
Non.
Pourquoi?
Je suis trop nerveuse.
Vous êtes trop nerveuse.
Vous auriez conduit nerveusement, c'est pas grave, remarquez. Il y en a qui conduisent comme ça, vous savez.
Je pense que vous devez supporter difficilement, puisque vous êtes nerveuse, les gens qui claquent les portes.
Oui,
Vous le supportez?
Assez difficilement.
Assez difficilement. Vous ne le faites jamais vous-même?
Si.
Ah, vous le faites aussi. Alors, madame, vous êtes quelque peu impatient.
Maître Charles-André Desmoutiers des Tours.
Madame, si vous avez l'impression que votre mari est sur le point de s'intéresser un peu trop à une de vos amies, est-ce que vous avez une tendance à lui faire continuellement des allusions piquantes au penchant qu'il a pour elle?
Oui, quelquefois.
Quelquefois? Vous ne craignez pas d'être impatientante? Et que répond votre mari?
Rien.
Il a de la patience.
Beaucoup.
Que préférez-vous, être une collaboratrice efficace pour votre mari dans ses affaires ou une ménagère modèle qui lui fait un intérieur agréable?
Une ménagère modèle.
Une ménagère modèle.
Préférable.
Vous pensez que... la femme est faite pour leur peau du guerrier.
Et le délassement du soldat, c'est pas ça qu'on dit.
Où verriez-vous avec impatience votre mari sortir avec des amis célibataires d'avant son mariage?
Mais, c'est-à-dire, je le laisserai sortir avec ses camarades?
Vous le laissez sortir? Vous pensez qu'au fond, le mariage n'est pas nécessairement une rupture absolue avec les habitudes antérieures?
Oh non.
Oh, la vie
vous
antérieure.
Vous voulez pas être en quelque sorte une romaine qui enlève un sabbat?
Merci, maître Chalandre, des Boutiers des Tours. Gisèle Boyer.
Pour suivre la question de maître Chalandre, est-ce que vous interrogez ses amis le lendemain, comme par hasard, pour savoir s'il est bien sorti avec eux?
Oh non.
Est-ce que vous avez froid dans le dos quand, en vous présentant une femme, il vous dit « Oh, c'est une amie d'enfance ».
Mais c'est-à-dire, si je la connais, en effet, je trouve normal.
Mais si vous ne la connaissez pas? Ah, elle est très jalouse, cette dame.
Vous ne lui posez pas de petites questions? Où l'as-tu connue? Quand? Vous étiez ensemble en nourrice? Vous jouiez aux billes? Non, rien du tout. Hein? Oh, un petit peu quand même.
Alors, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous lisez les lettres qu'il laisse dans un tiroir?
Non.
Non?
Non.
Et...
D'ailleurs,
et
il n'en laisse pas.
Non, non, c'est pas prudent. Et lorsque une lettre arrive à son nom en étant marquée personnel, qu'est-ce que vous faites?
Je la laisse.
Et lorsqu'il la lit, est-ce que vous lui demandez qui est-ce?
Je me documente toujours un peu.
Ah, vous demandez un petit peu.
Généralement, c'est marqué sur les feuilles d'impôt qu'on reçoit personnel. Mais ça
Merci.
Se voit nettement, là, alors. Merci beaucoup et bravo. Et bien maintenant, mesdames, messieurs, nous allons voter à main levée pour connaître la concurrente qui, selon vous, a le mieux répondu. Alors, pour Gisèle, la concurrente numéro 1 à main levée, je vous prie. Baissez les mains, merci. Pour la concurrente numéro 2, merci. Pour la concurrente numéro 3, merci beaucoup et sans aucun doute, c'est Irène, la concurrente numéro 3 qui vient de recueillir vos suffrages et qui a gagné le premier prix offert par les laboratoires Appel, la marque de qualité.
Voilà, madame, c'est une bouilloire électrique.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une bouilloire électrique.
Voyez ici, la marque de qualité Appel, c'est-à-dire qu'elle a été essayée dans les laboratoires Appel de nombreuses fois, elle a subi 22 épreuves consécutives, et même si vous oubliez de mettre de l'eau à l'intérieur...
Elle
ne s'abîme pas pour ça. Nous vous félicitons. Bravo. Le deuxième prix.
Voilà, madame.
Le deuxième prix est un fer à repasser.
Tenez.
Un fer à repasser électrique.
Qui porte l'estampille Appel également.
Le voici. Et nous vous félicitons également. Bravo. Et le troisième prix ex aequo est un magnifique grille-pain. un grille-pain avec lequel vous allez pouvoir faire des toasts le matin et toujours avec la marque d'estampille Appel. Voici.
Merci,
et bravo. Voilà. Nous allons maintenant faire subir aux trois maris de ces trois jeunes femmes un interrogatoire analogue. Alors vous voterez ensuite de la même façon, et c'est le Conseil national du cuir qui leur offrira leur prix. L'industrie du cuir est, vous le savez, la plus importante des industries. Elle vient en France au troisième rang. Élégance, hygiène, solidité, ce sont les trois qualités essentielles des objets en cuir. Nos jeunes maris en jugeront d'ailleurs tout à l'heure. Et les auditeurs pourront en avoir la preuve aussi, puisque le grand concours, dont on rappellera le règlement tout à l'heure, comporte également des prix importants offerts par le Conseil national du cuir. Fauteuils, trousses de voyage, valises, etc., etc. Pour l'instant, il s'agit pour l'un de nos trois concurrents de gagner le premier prix, qui est une paire de chaussures. Je suis certain qu'ils doivent être très impatients de l'avoir, car elle est très belle. Surtout si c'est là leur caractère essentiel, l'impatience. D'ailleurs, nous allons en juger immédiatement. Venez vous faire entrer le premier concurrent, je vous prie. Monsieur Pierre, je crois.
Oui.
Je vous livre à Catherine Gris qui va vous interroger.
Monsieur, supposons qu'il vous reste 7 minutes pour prendre un train. Vous êtes au guichet derrière 4 personnes, dont l'une n'entend absolument rien de ce que lui dit l'employé. Que faites-vous?
Si vraiment je veux prendre le train, je prends le train sans prendre le billet.
C'est dangereux, c'est risqué. Néanmoins, oui, vous l'osez.
Oui, je l'oserai, oui.
On paie un petit supplément, je crois, non? Hein? Je crois que j'ai l'impression. Ou alors, faut expliquer que vous étiez impatient.
Avez-vous déjà inventorié un sac de dame? Est-ce que vous n'avez pas été impatienté quand vous la voyez sortir tout ce qu'il contient pour trouver, enfin, une épingle à cheveux ou un billet de métro périmé?
Bon, c'est un peu plaisant, d'ailleurs, revoir toutes les choses de ces dames, non?
Cette phrase du répertoire, je retourne chez ma mère. Vous paraît-elle ridicule, périmée ou plausible?
Oh, plausible, plus ou moins.
Oh, ça dépend. Si vous êtes un bon mari, bravo, mais si vous impatientez votre femme, elle peut dire « je retourne chez ma mère ».
Ben, je laisse.
Oh, mais monsieur, mais vous êtes la patience même. Vous avez une patience angélique, dirais-je.
D'autant plus qu'il n'est pas du tout prouvé qu'elle retourne chez sa mère.
Mais justement.
Très bien, aller ailleurs.
Puis monsieur dit ça parce qu'il sait très bien que ça ne se passe pas comme ça maintenant.
Justement.
Oui, ça fait un peu votre vie, l'ancien. Maître Chalandre des Moutiers des Tours.
Est-ce que vous verriez avec impatience votre femme sortir souvent avec des amis qu'elle avait avant son mariage?
Bah, si ce sont des amis hommes, là, le manque de patience est plus excusable, je crois.
Est-ce que vous laissez votre femme conduire la voiture lorsqu'elle est avec vous?
Elle ne sait pas conduire, mais j'aimerais qu'elle apprenne. Car tout
et vous la laisseriez conduire?
Très volontiers.
Vous ne seriez pas pris par un vain sentiment d'infériorité?
Non.
Quelle réaction avez-vous devant l'admiration des femmes, en général et peut-être de la vôtre, pour le chanteur de charme?
Et ma femme ne s'intéresse pas beaucoup au chanteur de charme.
Enfin. C'est dommage, c'est très joli.
Vous n'y voyez pas l'inconvénient?
Non, enfin, ça m'énerve quand même un peu.
Ça vous énerve un peu? Oui, mais rappelez-vous que le chanteur de charme, quelquefois, ça peut être une assurance contre des risques plus graves.
Oui, naturellement.
Très bien. Avant que j'y sois le voyer.
Répondez-vous partout de la cendre de cigarette en disant, même si ça l'énerve, ça chasse les mythes et puis de toute façon, ça conserve?
Bah, tout au moins, j'essaye de ne pas la répandre, non?
Vous faites attention.
Oui.
Mais d'ailleurs, j'ai lu dans un magazine anglais, dans le temps, que la cendre de cigare conservait les tapis.
Oui, ce sont alors les hommes qui disent ça.
Ah.
Est-ce que vous arrachez votre femme à une soirée agréable en disant « je me lève de bonne heure » ?
Ah non, pas du tout.
Vous restez ?
Oui, je reste.
Si ça lui fait plaisir, vous restez ?
Ah oui, ça oui.
Mais en public, vous l'appelez Bobonne ou la patronne ou la petite mère ?
Ah non, pas du tout, je l'appelle par son nom.
Vous l'appelez par son nom, mais dites surtout pas.
Mais enfin, oui, pas.
Merci, monsieur.
Merci beaucoup et bravo, monsieur. Le concurrent numéro 2, monsieur René, Catherine Gris.
Monsieur, supposons un encombrement dans un carrefour. Vous passez de justesse au moment où l'agent siffle. Votre femme, moins sûre d'elle, reste sur le trottoir. Quelle va être votre réaction quand elle va vous rejoindre?
Bien, je l'attendrai.
Patiemment, gentiment?
Oui, tranquillement.
Oui. C'est très bien. Est-ce que vous aimez la couleur rouge?
Oui.
Oui?
À condition qu'elle soit bien portée.
C'est un indice de violence et souvent d'impatience. Nous allons le savoir. Imaginons encore que vous êtes depuis 20 minutes à une station d'autobus. C'est le troisième qui passe complet. Vous allez monter, tout à coup, le receveur avise dans la foule une dame, l'air pas très pressée, avec un enfant sur les bras, dit priorité d'abord, maintenant c'est complet, et l'autobus part, sans vous.
Bien alors, dans ce cas-là, je prends le métro, ou alors si je suis extrêmement pressé, je prends un taxi.
Mais monsieur, vous êtes un modèle, vous aussi, de patience.
Oui, c'est très bien.
Ah, oh, c'est très bien.
Mais j'aurais démoli la porte. Enfin, ça ne fait rien. Maître Chalandre...
Est-ce que vous irez mieux jusqu'à me dire que vous ne manifestez aucune impatience si votre femme, lorsque vous allez avec elle au théâtre, s'attarde à se faire une beauté?
Ben, je serai assez impatient parce que j'aime bien arriver à l'heure de façon à pouvoir avoir le spectacle entier.
Votre patience a tout de même des limites.
Vous êtes de ceux qui viennent à l'heure au théâtre, c'est bien.
Exactement.
Je vous félicite.
Dans un autre ordre d'idée, dites-moi, monsieur, est-ce que vous verriez sans déplaisir votre femme faire de la politique? J'entends de la politique active, enfin, se présenter aux élections.
Ben, pas précisément, mais j'aimerais bien qu'elle ait des... Comment dirais-je? Des opinions personnelles bien définies.
Oui. Malgré mais vous tout, ne tenez pas à ce qu'elle devienne députée.
Non, mais ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit assez élastique, n'est-ce pas, sur ses points de vue politiques, de façon qu'elle ne
pour
soit
adopter
pas...
votre point de vue, c'est ça que vous voulez dire, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous éprouvez, au retour de votre femme de vacances, un léger regret de perdre votre liberté provisoire, ou au contraire, est-ce que vous l'attendez avec impatience?
Non, je suis très content de l'attendre.
Vous êtes très content?
Ah oui. Aucune espèce de la revoir.
Aucune espèce de réticence?
Non, aucune, non.
Non. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes content de la revoir ou parce que vous en avez assez de faire votre cuisine vous-même?
Oh non, ça m'est complètement égal. Non, non, ça...
Gisèle Boyer.
Est-ce que vous ronflez la nuit, monsieur?
Oh non, pas du tout, je suis silencieux.
Vous êtes silencieux. Et est-ce que vous vous déshabillez devant votre femme?
Ben oui, ça dépend. Tout dépend comme ça se présente, quoi.
La réveillez-vous? Est-ce que vous la laissez plutôt se réveiller la première lorsque le réveil sonne?
Ben, ça vous savez, je ne sais pas, ça dépend. Si c'est moi qui me réveille le premier, je la réveille ensuite, c'est elle qui se réveille la première.
Oui, mais lorsque le réveil ensuite. Sonne pour vous, est-ce que vous attendez qu'elle se lève pour arrêter la sonnerie?
Ah non, c'est moi. D'ailleurs, il est à côté de mon lit.
Monsieur, n'oublions pas de détails.
Ah, et alors,
Il est propriétaire du réveil.
Merci beaucoup.
Eh bien, bravo monsieur, nous félicitons. Et voici maintenant le concurrent numéro 3, Monsieur Étienne. Catherine Gris, voulez-vous interroger Monsieur Étienne, je vous prie?
Que faites-vous lorsque le boxeur ne frappe pas exactement avec la vitesse que vous voudriez lui voir déployer? Que faites-vous?
Si je vais à un match de boxe, j'y vais pour la boxe, pas pour la foule.
Oui, oui, mais ça, vous vous énervez. Hey, vas-y, cochon, allez. Au buffet, vous criez, choses comme ça, ou bien vous restez statique?
Ça doit m'arriver que je crie.
Ah,
très bien. Voulez-vous expliquer le sens que vous donnez à la phrase « mauvaise tête, mais bon cœur » ?
La phrase parle pour elle-même.
Mais si vous vouliez bien nous dire quelque chose de plus?
Une main de toilette dans un gant de crin, quoi, oui. Comprenez-vous? Hein?
Mauvaise tête, un peu têtue.
Imaginons par exemple... Dans un couple, la femme demande à son mari un petit cadeau, de lui faire un petit cadeau qui lui ferait plaisir. Il ne répond pas, ou il l'envoie promener, ou lui dit non, je ne peux pas, et le soir, le lui apporte.
Oui, c'est à peu près ça.
Maître Chalandre des Moutiers des Tours.
Quelle est votre réaction, monsieur, si vous vous apercevez, si vous vous aperceviez, car l'hypothèse ne peut pas être prise en considération, que votre femme met, en dehors de vous, de l'argent de côté sans vous le dire?
Évidemment, ça me plairait pas du tout, pour le principe, mais surtout pour la défiance.
Oui, mais remarquez que votre femme pourrait faire ça dans un but de prévoyance, par exemple, pour parer à un coup dur éventuel.
Si je me rends compte que c'est vraiment pour cela...
Ça peut être aussi pour s'offrir des toilettes qui la rendront plus agréable à vos yeux.
Alors, si vous voulez, ça dépend du but de cette économie...
Oui.
Dirigée.
C'est un peu de votre
si vous
Est-ce que le soir, monsieur, vous préférez sortir avec votre femme? Ou est-ce que vous préférez passer la soirée avec elle au coin du feu?
Je préfère en tout cas passer la soirée avec elle.
Où que ce soit. C'est très bien, monsieur, vous êtes un mari modèle. Est-ce que vous êtes... Nous allons voir, d'ailleurs, si vous êtes un mari modèle. Est-ce que vous êtes capable de vous priver du complet neuf dont vous avez besoin pour lui offrir la robe dont elle a simplement envie?
Le cas ne s'est pas encore présenté.
Mais s'il se présentait.
Vous savez, c'est très difficile à répondre parce que, évidemment, j'ai l'intérêt de répondre... que je veux bien me priver du complet.
Mais vous n'êtes pas absolument sûr d'être un mari pélican.
Gisèle Boyer.
Dites-vous toujours que les femmes ne sont jamais à l'heure?
Oui.
Votre femme n'est jamais à l'heure?
Des fois, elle est à l'heure, mais Je crois que c'est un hasard.
Mais là, vous avez hésité, vous pensiez aux autres.
Il parle surtout des autres, oui.
Oui, c'est cela. La réveillez-vous quand vous rentrez très tard d'une réunion de camarades en lui disant « C'est épatant tout de même, entre hommes, on s'amuse beaucoup mieux. »
Elle m'attend toujours.
Mais lui faites-vous remarquer qu'entre hommes, vous vous êtes plus amusé qu'avec elle. Est-ce que vous préférez sortir avec vos amis plutôt que de sortir avec les siens?
Depuis que je suis marié, je sors avec ma femme.
Ah, c'est très bien. Et alors, monsieur, est-ce que vous faites semblant de vous ennuyer quand elle est absente?
Non, je ne fais pas semblant.
Vous vous ennuyez?
Non.
Ah, bon. Merci.
Bravo, merci beaucoup, monsieur. Bravo. Eh bien, maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons procéder comme tout à l'heure. Nous allons voter à main levée pour savoir quel est le concurrent qui a le mieux répondu. Je vous présente le concurrent numéro 1, M. Pierre. Pour M. Pierre, numéro 1. Merci. Concurrent numéro 2, M. René. Merci. Concurrent numéro 3, M. Étienne. Eh bien, sans aucun doute, c'est le concurrent numéro 2, M. René, qui remporte la palme et à qui je vais avoir le plaisir d'offrir le premier prix qui voilà, lui monsieur. Est offert par le Conseil national du cuir.
Eh bien, voilà une magnifique paire de chaussures.
Une très belle paire de chaussures noires.
Elles sont un peu grandes.
Je tiens à rappeler au concurrent, monsieur, que vous, naturellement, vous choisirez une paire de chaussures à la pointure que vous possédez. Bien entendu, je ne vais pas vous donner un 47 fillettes si vous avez du 40. Avec des bouts perforés à triple semelle, elles sont ravissantes. Le deuxième prix.
Un portefeuille de cuir.
Est un portefeuille de cuir gold avec de nombreuses poches, la poche secrète qui est ravissant et très beau.
Il est également
parfaitement
offert
par le Conseil national du cuir. Monsieur, tenez, écoutez, nous allons faire une chose. Voulez-vous vous approcher puisque vous êtes ex aequo? Le troisième prix, qui est un deuxième prix ex aequo, est un magnifique porte-cigarette en cuir vert avec une patte qui contient. Oh, très facilement, une vingtaine de cigarettes.
Un et paquet.
D'un fini irréprochable. Alors, messieurs, écoutez, voici ces deux prix, et je pense que vous allez pouvoir vous arranger. Peut-être l'un n'est-il pas fumeur, et l'autre a-t-il besoin d'un portefeuille. En tout cas, je vous félicite, et je vous dis bravo.
Merci. Oh.
Maintenant, mesdames et messieurs, c'est à vous de jouer. Le jeu que nous vous avons proposé. Vous devez marier à votre idée les trois jeunes femmes que vous avez vues et les trois jeunes hommes. C'est-à-dire que vous devez deviner qui est marié avec qui. Ceux d'entre vous qui auront désigné exactement les trois couples gagneront un briquet ou un porte-clés offert par le Conseil national du cuir. Quant au couple qui aura été désigné exactement par le plus grand nombre d'auditeurs, il sera réputé le couple gagnant de la soirée.
J'ai encore une petite question à vous poser. Il faut rappeler en effet que le grand concours entre auditeurs comporte comme premier prix une 4 chevaux Renault.
Oui, oui. Eh bien, savez-vous que la régie Renault a produit en 1950 40% des véhicules français?
Et savez-vous que les 432 opérations nécessaires pour transformer un quarter cylindre de 4 chevaux brut en un quarter cylindre prêt au montage sont effectuées sur 26 machines seulement en 85 minutes?
Savez-vous qu'une 4 chevaux Renault sort toutes les 80 secondes?
Alors, combien de 4 chevaux Renault sortiront-elles entre maintenant et la clôture du concours à la fin de la 11e émission de Jouons le jeu?
Vous ne le savez pas?
Non.
Moi non plus, d'ailleurs, mais ça ne fait rien, vous avez gagné tout de même. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous proclamer le résultat du scrutin. La concurrente numéro 1, Gisèle, est mariée avec le concurrent numéro 3, Étienne. Le numéro 2, Geneviève, est mariée avec le concurrent numéro 1, Pierre. Et enfin, la concurrente numéro 3, Irène, est mariée naturellement avec le numéro 2, René. Le couple gagnant est le numéro 2 et 1. Geneviève et Pierre qui ont obtenu 35 voix. Eh bien, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. 23 personnes ont désigné exactement les trois couples.
André Gillois vint interroger les gagnants du concours entre jeunes mariés et leur demander, en somme selon sa formule, « Qui êtes-vous ?» Après quoi, je vous exposerai le règlement du grand concours de caractère ouvert entre tous les auditeurs.
Eh bien, madame, nous avons entendu tout à l'heure que vous répondiez à la plupart des questions que l'on vous posait avec une certaine timidité. J'espère que maintenant que vous avez l'habitude du micro, vous allez pouvoir répondre plus aisément. Je vais d'abord vous poser quelques questions très simples afin que Madame Simone, qui vous interrogera ensuite, puisse avoir une petite idée de ce que vous êtes. Voyons. Est-ce que vous êtes facilement blessé par une critique un peu vive ?
Oui.
Oui, vous êtes très susceptible.
Oh, très non, mais...
Assez.
Quand même un
bien
peu,
assez.
Oui.
Est-ce que vous avez des superstitions ?
Je ne voudrais pas en avoir, mais quelquefois,
par
bêtement,
exemple.
Je ne passe pas sous une échelle parce que on dit, etc. Et je sais pertinemment
parce que vous en
c'est
avez
absolument
l'habitude.
Idiot oui. d'avoir des...
Question d'habitude.
Est-ce que vous avez l'habitude de prendre vos décisions rapidement ?
Non. Non.
Vous hésitez beaucoup ?
Oui, je suis hésitante.
Est-ce que vous passez souvent votre temps à rêver, à réfléchir, à penser à vous-même ?
À moi-même, non, mais enfin, je pense enfin, toutes sortes de choses, des problèmes de mon intérieur, problèmes extérieurs, politiques même.
Est-ce qu'on pourrait vous interroger sur ces pensées que vous avez lorsque vous êtes seul ? Quel est le genre de vos pensées ?
Sont-elles à base d'inquiétude ? Est-ce qu'elles sont causées par une espèce d'inquiétude latente ?
Oh, oui, elles sont surtout causées par une inquiétude, d'ailleurs. Nous vivons tellement
oui,
l'époque.
Oui, naturellement.
Nous craignons la guerre, nous craignons un tas de choses.
Oui. Alors, en somme, ce sont les raisons que nous avons les uns et les autres d'être inquiets, même pour des questions générales qui orientent vos rêveries ou vos pensées ou vos réflexions.
Oui, certainement.
Est-ce que vous n'avez pas plutôt une tendance à vous inquiéter, enfin, aller du côté du pessimisme que du côté de l'optimisme ?
Oui, je crois, mais c'est un peu indépendant puisque ce sont les faits extérieurs qui m'obligent à
ah
être
oui.
comme
Est-ce
ça.
Est-ce que vous avez le sentiment que dans un univers en ordre et vous ne se présenterez pas les problèmes extérieurs qui se présentent à nous, vous seriez une femme qui ne se poserait pas de questions quant à l'avenir ?
Oui, certainement.
Oui.
Et quand vous étiez plus jeune, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, parce que vous n'avez pas l'air vieille, mais enfin, quand vous étiez tout à fait jeune, je veux dire enfant, est-ce que vous n'étiez pas inquiète de l'avenir ?
Non, je ne me souviens pas.
Vous ne vous posiez pas de questions ?
Non, je ne me laissais vivre.
Alors ça vous est venu depuis quand ?
Mais depuis que ça se gâte.
Oui, c'est ça.
Surtout
depuis que je suis maman, j'ai un enfant.
Il a quel âge ?
Il a 3 ans et les problèmes d'avenir se posent.
Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est autour de sa tête, surtout, que vos rêves et vos questions sont anxieuses.
Oui.
Il est surtout la cause de votre anxiété, en somme.
Oui, il aussi, mais enfin, mon mari, je pense,
oui.
tout, et puis enfin, aux conditions de vie, enfin, un tas de choses.
Oui.
Et quand vous étiez plus jeune, par exemple, vous n'avez pas eu peur des examens, quand vous passiez un examen ?
Oh, oui, terriblement.
Ah. Après, c'est sa timidité, évidemment. Ah. Elle a toujours été une... Elle a dû toujours être assez anxieuse.
Oui, enfin, c'est peut-être mon état, alors, sa physique
oui.
qui...
Oui. Vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas, par exemple, si vous cherchez dans votre passé d'enfant... Voir s'il y a un événement qui a déterminé cette anxiété.
Non.
Vous n'arrivez pas à trouver la raison de cette anxiété,
non.
parce qu'il y en a sûrement une.
Écoutez, c'est une chose... Par exemple, j'étais nulle en mathématiques, et
oui.
alors j'avais terriblement peur les problèmes.
Quand
est arrivée
la classe de mathématiques, oui.
Je tremblais, je souhaitais être une souris, parce que mes problèmes n'étaient pas faits, ou je savais pertinemment qu'ils étaient faux, j'avais fait n'importe quoi.
Alors, par conséquent, vous aviez toujours le besoin d'être en règle. Vous aviez le goût de la règle, vous aviez le goût de l'ordre.
Je n'y arrivais pas.
Voilà. Est-ce que ce n'est pas le fond des choses, la peur de ne pas y arriver ?
Peut-être, mais enfin, là, pour... Enfin,
les... Goût de bien faire, non, c'est plutôt
est-ce que la
bien
peur,
faire.
N'est-ce pas ? Est-ce que cette peur de l'avenir, c'est la peur des choses auxquelles vous ne pouvez rien, ou la peur, en quelque sorte, de ne pas pouvoir aux choses, n'est-ce pas ?
C'est là plutôt la peur de n'être rien et de ne pouvoir influencer
voilà,
rien dans
ce
qui se passe.
C'est ça.
Mais nous pourrions peut-être poser maintenant des questions relatives à votre mari, si cela ne vous ennuie pas. puisque il faut supposer que, de temps en temps, vous lui faites part de vos anxiétés. Ou est-ce que vous gardez ça pour vous ?
Il ne prête pas une attention exagérée à tout ça.
Il cherche à vous rassurer.
Oui.
Est-ce que vous croyez que dans ce qui vous a porté vers lui, entrait le besoin d'être rassuré ?
Oui, et puis...
Il est rassurant, je trouve. Il est rassurant d'aspect.
Peut-être parce qu'il est... Il est fort.
Il est robuste,
peu,
oui.
C'est ça, peut-être, oui. Je ne sais pas.
Oui.
Et puis, enfin, toute femme cherche un soutien, oui. Une protection, peut-être.
Pas toutes les femmes, bon. Peut-être pas toutes.
Oui, bon, oui, évidemment.
Il y en a qui cherchent au contraire à protéger.
Non, ça, ce
n'est pas votre cas.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Alors, en somme, quand vous avez pensé au mariage, vous avez toujours envisagé que l'idéal, c'était l'homme qui protégeait. Plus qu'un égal, vous avez pensé à un protecteur.
Un égal, mais enfin, un peu un protecteur, un remplacement du père.
Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous aimiez beaucoup votre père?
Oui, j'aimais beaucoup papa. Il est encore vivant, d'ailleurs.
Ah oui, vous l'aimiez beaucoup, oui.
Vous aviez des sœurs et frères?
Non, j'étais fille unique.
Ah oui. Ça favorise, d'ailleurs, je crois, cette tendance à l'anxiété.
C'est-à-dire que votre père vous semblait évidemment le protecteur né de votre famille, oui. Et de vous-même.
Oui, évidemment, je pensais si je me mariais...
Naturellement,
je
vous vouliez...
Pas,
oui.
Tout au moins d'avoir un mari, oui. qui ressemble à mon...
Est-ce que vous disiez, ce que moi je disais toujours, je me marierai avec papa. Est-ce que vous disiez ça quand vous étiez petite?
Ça, je ne me souviens pas. Oui.
Les enfants, les petites filles,
mais elle était en train
ça.
De nous dire qu'elle souhaitait de trouver un mari qui
ressemble à son père.
Qui remplace.
Est-ce qu'en fait, votre mari ressemble un peu à votre père?
Oui, il a de l'autorité, enfin.
Juste ce qu'il faut.
Oui, pas trop, mais enfin. Puis, il décide souvent.
Mais il ne ressemble pas pour d'autres choses.
Oh non.
Est-ce que cette autorité qu'il manifeste, qu'il la manifestait déjà au moment où vous l'avez rencontré?
Oh oui.
C'est lui qui a fait les premiers pas, si je comprends bien.
Les premiers pas, je ne sais pas.
C'est toujours les femmes qui choisissent. Non? Moi, je crois que c'est les femmes qui choisissent. C'est les femmes qui font le petit signe, qui disent « vous pouvez choisir ».
Vous pouvez y aller.
Peut-être. Peut-être, mais enfin, je me suis attachée à lui. Je ne sais pas, inconsciemment, peut-être à cause de tout ça.
Bien sûr.
Je n'ai peut-être pas voulu m'avouer que son autorité, enfin, et son genre me
Mais bien sûr, mais plaisait, bien sûr. Enfin... C'est certain.
Mais est-ce qu'entre le moment où vous l'avez choisi, où vous vous êtes laissé choisir, et maintenant, vous avez pu... constater certaines différences dans son caractère, certaines choses que vous avez découvertes en lui et que vous ne voyez pas au début, ce qui arrive toujours, du reste.
Oh, non, pas tellement. Oh, évidemment, il n'y a plus de laisser-aller que lorsque nous étions fiancés.
Il n'y a plus des ordres.
Oui, et puis, parfois, il y a des petits mots. Enfin,
j'espère bien, sans ça, ce serait très ennuyeux. Il faut les petits mots.
Non, mais c'est parce que, je pense, la question que vous posez, Gillois...
Non, ce qu'il voulait savoir, c'est si vous aviez découvert, dans l'essence même de son caractère, des choses qui vous avaient échappé au moment où vous avez décidé de faire votre vie avec lui. Moi, je n'ai fait que l'entrevoir, mais j'ai le sentiment que c'est un homme qui se dévoile vite, qui est lui-même tout de suite.
Oui.
Alors, expliquez-nous bien ça.
Oui, effectivement, il n'y a pas tellement de choses... caché, enfin, dans son caractère.
Il est, en somme, comme vous l'avez vu, quand vous l'avez rencontré.
Oh oui.
Eh bien, nous allons maintenant, si vous voulez bien, l'interroger à son tour. Je voudrais vous poser une question pour pousser un petit peu les choses et essayer de vous connaître davantage, parce que vous vous aimez profondément, tout semble très bien marcher pour vous, mais il y a certainement des moments où vous vous accrochez sur un petit quelque chose. Est-ce que vous avez le souvenir d'une dispute ou de... je ne dirais pas d'une scène de ménage, ce serait trop gros, mais enfin d'une discussion, mettons, qui vous est opposée sur un sujet général ou particulier depuis longtemps?
Non, moi je ne vois pas. Je ne vois pas où nous avons pu avoir une dispute vraiment sérieuse.
Il y a des petits faits quand même. Oh, évidemment. Par exemple, tu n'admets pas de te priver de sortir. Parce que nous avons le petit, le mot tu râles, évidemment, parce que c'est si, parce qu'il n'y a personne pour le garder, que tu voudras aller au cinéma ou au concert. Ou...
Toi, de vous, mon
Alors, frère. Enfin, je te dis, tu es égoïste. Enfin.
Elle est la femme qui n'a pas dit ça à son mari, remarque.
Ce sont des petits faits, évidemment, ce n'est pas. On ne peut pas appeler ça une dispute, ce sont des petits mots.
Non, mais il est normal, nous avons un enfant, nous avons eu un enfant, enfin... Nous sommes jeunes, nous avons déjà un petit garçon qui a environ 3 ans. Il est normal que, enfin, il me semble que dans tout début de famille, le premier enfant apporte toujours quelques...
Un changement, évidemment.
Ou un changement à l'habitude que nous avions déjà prise, pour ainsi dire, de vivre ensemble, nous deux seulement, voir un enfant au milieu de nous, ça nous semble... Nous ne sommes pas encore habitués, quoi.
C'est ça, l'adaptation de l'un à l'autre a été plus facile que l'adaptation de cette troisième personne qu'est l'enfant.
Moi, je crois, tout au moins.
Oui, parce que surtout, tu es privé, malgré tout, dans tes petits plaisirs, dans tes sorties, dans tout ça.
Oh, c'est certain, si on veut chercher, nous voulons pousser la chose assez loin, aussi bien moi que toi, enfin, en particulier l'homme, tout au moins, il se trouve peut-être un peu privé de... L'amour maternel de la mère, automatiquement, semble à l'homme lui soutirer un peu d'amour. Enfin, c'est un peu de l'égoïsme, si l'on veut. Enfin.
Peut-être une pointe de jalousie aussi.
Une pointe de jalousie, si l'on veut. Enfin, on ne peut pas dire qu'on est jaloux de son enfant, d'autant plus lorsqu'on l'adore.
Par moments, je me le demande.
Mesdames, messieurs, je vais maintenant vous rappeler en quoi consiste le grand concours ouvert entre tous les auditeurs, téléspectateurs et spectateurs de Jouons le jeu. Tous ceux qui voudront participer devront dire « je suis timide » ou « je suis paresseux » ou « je suis sincère », etc., selon qu'ils estimeront que leur principal défaut ou leur principal trait de caractère sera celui d'un des caractères faisant l'objet des 11 premières émissions de Jouons le jeu, à savoir la timidité, la paresse, l'impatience, l'égoïsme, la sincérité, l'ambition, la jalousie, l'optimisme, la fidélité ou l'esprit d'économie. Chacun de vous devra répondre en outre à la question suivante. Quel est celui de ces caractères qui groupera le plus d'adhérents? Quel est celui qui viendra ensuite? Et ainsi jusqu'au 11e. Il s'agit en somme de dresser la liste type de ces 11 caractères par ordre numérique. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, d'attendre que les 11 émissions soient passées pour faire votre choix. Pour vous faciliter la rédaction de votre réponse, des formulaires spéciaux sont à votre disposition. Vous pouvez les demander à la Radiodiffusion française, 107 rue de Grenelle à Paris, en envoyant une enveloppe timbrée à votre nom. Vous en trouverez chez les électriciens dépositaires d'appels, vous en trouverez chez les marchands de cuir. Enfin, vous en trouverez dans toutes les salles de cinéma qui passeront le film « Jouons le jeu » qui vous permettra de vous faire une opinion visuelle et de juger si vous ressemblez à tel ou tel personnage, timide, paresseux, etc., etc. La télévision française diffusera le film « Jouons le jeu » le dimanche 4 novembre sur 441 lignes à 21h20 et le lundi 5 novembre sur 819 lignes à 20h50. Le concours est doté d'1 million de prix. Premier prix, une 4 chevaux Renault. Deuxième prix, une machine à laver automatique de 150 000 francs. Troisième prix, une paire de fauteuils club de 100 000 francs. Et 32 autres prix, composés d'appareils électrodomestiques, tous munis de l'estampille de qualité Appel, et d'articles de cuir offerts par le Conseil national du cuir. Cuisinière électrique, chauffe-eau électrique à accumulation, aspirateur, fourniture de bureau, sacs en crocodile, veste de daim, valise, trousse, etc. La liste exacte figure sur les formulaires. Pour terminer cette soirée, vous allez entendre, dirigée par Jean-Pierre Morfet, la nouvelle version de la célèbre émission « Qui est-ce ?».
Voici le premier portrait de la série de « Qui est-ce ?» qui est envoyé par un auditeur qui nous demande de ne pas révéler son nom. C'était un dur. De propos délibérés et sans la moindre hésitation, il plongea dans le malheur, la misère ou la mort des millions d'êtres. Il n'éprouva jamais,
Hitler.
Semble-t-il, non, le moindre
Napoléon
remords.
Bismarck.
Gagné. François Giroud,
c'est toujours la même race, toujours les mêmes.
Première victoire acquise à l'équipe féminine. Second portrait, qui est envoyé par Monsieur Jacques Vautier, boulevard Beaumarchais. Il imposait le respect par sa dignité et l'affection par sa cordialité. Certes, l'Église lui reprocha une manifestation d'intempérance, mais les mœurs de l'époque étaient rudes. Il avait une répugnance marquée à marier ses filles, mais il essaya de la vaincre au moins une fois.
Philippe le Bel.
Non plus. Il était pieux et travailleur.
Charlemagne.
Madame Simone.
Charlemagne était intempérant?
Pas du tout, d'ailleurs. C'est ce qu'on nous dit par la suite. On nous dit, solide et ferme dans sa démarche, il avait la voix forte et claire. Il avait une excellente santé, il mangeait avec appétit, et quand il devint vieux, il se rebellait contre ses médecins, qu'il m'interdisait les viandes rôties dont il était friand, et le gibier dont il raffolait. Il avait livré son horreur.
Alors, je ne comprends pas, pas
la manifestation d'intempérance.
Il a dit quoi pour le mariage de ses enfants? Je ne vois pas l'enfant.
Quoi, l'Église lui reprochait sa tempérance?
Non, une manifestation d'intempérance qui ne s'appliquait pas à la boisson.
Quelle manifestation d'intempérance? Elle est débile, quoi.
Il a eu trop de filles.
Il a eu 5 femmes légitimes.
100 femmes
légitimes. 5.
Moi, je vois grand, le harem, tout de suite. C'est comme
Imitulte, Désiré, Hildegarde, Fastrade et Luitgarde.
Mais nous ne savons pas ce que l'Église pense de
Guitry. Moi, ce que j'admire, c'est s'ils se souvenaient de leurs noms. Parce qu'avec des noms pareils...
Il eut 4 maîtresses, dont les noms étaient Madelgarde, Gervinde, Reine et Adélaïde. Il changeait souvent, d'ailleurs. Je change à Madelgarde. Je rappelle que l'équipe féminine mène par 2-0. Troisième portrait, envoyé par M. Dalin, place des Victoires à Paris. Il était spirituel, éloquent, non-conformiste, cyniquement agressif, sarcastique. C'était, ceci est une citation, « celui qui pardonnait le moins aux riches et aux grands l'opulence de leur maison et les délices de leur table, dont il était lui-même fortesse de jour. »
Chamfort.
Chamfort. Oui. Est-ce que je dois donner lecture de la suite du portrait?
Ah oui, c'est vrai.
Vous voulez. Car la suite du portrait, rédigée par l'auditeur, est composée d'une citation d'Emmanuel Berle. Je pense que c'était un piège.
C'est généreux, alors.
Il pensait peut-être que vous ne le reconnaîtriez pas.
Je ne reconnaîtrais peut-être pas la citation, mais j'ai reconnu tout de même Chamfort.
Il non, plaisait... mais lisez-nous ça un peu.
Voici du Berle.
On va recommencer le Berle.
Ah, mais un peu, là. On n'en lit pas si souvent.
Cet extrait du tableau de la littérature française où Emmanuel Berle a fait le portrait de Chamfort.
Eh ben.
Il plaisait à la société de son temps, le XVIIIe siècle, où les dames se souciaient plus de savoir si un homme était aimable que de prévoir les postes auxquels il accéderait plus tard. Le beau monde qu'il fêtait, il le prit en haine, et il en poursuivi non sans apprêter la destruction. Parce que cet homme, qui avait tant de motifs pour s'aimer, ne s'aimait pas. Une force plus lourde qu'un destin le guidait toujours à l'inverse de lui-même et de ses facilités. Quelque chose en lui était, toujours et partout, enclin à prendre parti contre soi. Toujours méchant. Toujours hostile à ce qui va dans notre sens, à ce qui risque de nous flatter, de nous perdre dans la complaisance et dans le contentement. Cette constante passion de se nuire, de se détruire, et avec soi l'univers, dans la même mesure où on se sent lié à lui, cette mise en accusation permanente de toute chose et de soi au nom d'une vérité qui peut-être n'existe que comme moyen d'accuser, cet extrême durcissement du regard auquel rien ne semble plus authentique et qui tend toujours...
Oui. Et moi, j'ai relu, il y a 8 jours, je l'ai relu.
Oui, mais il aurait dû commencer par là, par cette
situation. Je ne l'aurais pas reconnu. Je l'aurais pas reconnu. Mais je trouve que
mais
c'est
non,
vrai.
C'est Merleau du Voltaire. Lui-même qui a envoyé ce portrait, voyons.
Vous pourriez écrire, vous avez un très joli talent.
2-1. Autre portrait.
Montée irrésistible.
De Monsieur Francis de Lille. Elle est grande et bien faite.
C'est donc une femme.
Elle, tout en principe, croit. D'une manière courante.
Elle a une mine douce et majestueuse qui ne manque jamais d'inspirer dans l'âme de ceux qui la voient l'amour et le respect. Elle a été l'une des plus grandes beautés de son siècle et présentement, il nous en reste assez pour en effacer des jeunes qui prétendent avoir des attraits.
C'est la victoire de Samothrace.
Pardon.
La victoire de Samothrace.
Berle.
Cléode Mérode.
Non.
La Vénus de Milo.
Non plus. Après.
C'est une reine.
Partez.
Ses yeux sont parfaitement beaux. Le doux et le grave s'y mêlent agréablement. Leur puissance a été fatale à beaucoup d'illustres particuliers et des nations entières ont senti à leur
Anne
dommage...
Hélène. Anne d'Autriche.
C'est Hélène.
C'est Anne d'Autriche.
Moi, je c'est ne... agréable.
Je crois pas
on a fait des guerres exprès pour elle. Moi, je trouve ça merveilleux.
Anne d'Autriche, non, je crois qu'elle n'était pas jolie du tout.
Ah non, je trouve ça très amusant.
Moi, je crois Hélène que toutes ces femmes portraient curées étaient beaucoup moins bien que la moindre photographie de elle ou de du Chardonnay Mode.
Oh oui,
d'abord, vrai. Elles avaient toutes les dents pourries, elles étaient sales. Elles... Oh non.
Je proteste. Toutes
ces femmes ont nommé.
Pour ce qui est d'Anne d'Autriche, nous avons le portrait de reste.
Ça ne vaut pas la moindre pin-up de magazine.
C'est toujours une question de comparaison, la beauté.
Elle n'était pas jolie, elle était fière de ses mains.
Bah, c'est pas tout. Elle en a donné une à D'Artagnan. Elle lui a prise.
Madame de Motteville vous concède que son teint n'est pas de même, qu'il n'est pas aussi beau, et la négligence qu'elle a pour sa conservation, ne mettant presque jamais de masque, ne contribue pas à l'embellir. Son nez est gros, mais cette grosseur ne sied pas mal avec de grands yeux.
Alors.
Mais à part ça, elle est
ravissante.
Au Berlay, déchaîné contre les femmes du 18e siècle, n'en parlons plus.
Moi, je suis pour le 20e siècle.
On est 3, hein.
20 fois.
3 à 1.
Il est pour le 20e siècle.
Un portrait envoyé par M. Jean-François Joël, rue de Richelieu. Il préférait à toute chose le travail et au travail la rêverie. Il possédait le rare privilège d'être l'homme de son œuvre. Il était séduisant comme elle. un visage dessiné en lignes douces, un beau front dégagé, une noble chevelure aux ondes harmonieuses, une moustache paternelle, non plus, non plus,
Montesquieu,
donnant un sourire de la, donnant au sourire de la tendresse et de la bonté, un teint ambré de sarrasin, une voix voilée et des yeux de gazelle, le rendait irrésistible.
Il n'avait pas de moustache.
Non, il n'avait pas de moustache.
Il faut chercher dans les gens qui ont de la moustache.
Les yeux de gazelle, c'est très intéressant, ça, des yeux de gazelle.
De qui est le portrait?
Le portrait de M. Joël.
Ben voilà. Ah, il est de lui, mais je trouve qu'il a copié les portraits d'époque grandement, parce qu'il y a une espèce de ton un peu...
C'est pas le même.
M. Joël a la noblesse.
C'est Byron. Oui, oui. C'est Byron.
Non.
Il n'avait pas de moustache.
De
avait...
Oh, je vous remonte, pardon. C'est le National Portrait Gallery, il est en
train. C'est un Français.
Pardon.
C'est un Français.
Laissez-moi en lire un peu plus avant de répondre aux questions trop précises.
Ouais.
De même qu'il avait la pudeur de son génie, il ne semblait pas se rendre compte de son charme qui troublait si profondément.
C'est pas
non plus.
C'est
admiratrice.
C'est Proust.
Non plus. Un des traits significatifs de sa psychologie fut une souplesse nonchalante de sceptique aimable, masquant une secrète obstination de montagnard dont on ne pouvait briser la souriante résistance.
Montagnard.
Berlioz. Ah, il y a là des détails très précis.
Il avait une moustache.
Ah, il y a la moustache, hein.
Ah ben la moustache, ça
le
peut pas
être de Sarrazin.
C'était où le 19e ou bien alors beaucoup plus tôt.
Voilà, c'est ça qui est inquiétant. Ça peut être
c'est pourquoi cet incroyant, dépourvu de tout sectarisme et de toute intolérance, traversa avec la plus affable sérénité une grande école religieuse et fréquenta professionnellement...
Guérin.
Non. Les milieux ecclésiastiques les plus variés, sans rien perdre de son indépendance d'esprit. Non.
Philippe de Champagne.
Non plus. Je vais lire jusqu'au bout et après ça, on
dirait
donnera
que c'est Renan,
une victoire
mais vraiment, il n'a pas de moustache. Mais c'est cette moustache qui nous gêne.
Ah, moi, je pense toujours à Bellamy quand on me parle d'une moustache.
Nous l'avons peut-être connu avant.
Incapable de sacrifier ses convictions profondes à des considérations de diplomatie, d'opportunité ou d'intérêt personnel, il donna de très beaux exemples de courage intellectuel, non, en entrant ouvertement en lutte contre les milieux officiels que sa situation lui faisait pourtant un devoir de ménager.
Il était ambassadeur?
Non. Son art est l'incarnation parfaite de la mesure, du tact et du raffinement du goût français. Sur cette dernière phrase, vous devriez trouver.
Un n'a pas de moustache.
Bon, alors je crois que nous allons...
Ça doit être un peintre.
C'est de la croix.
Comme ce n'est ni un peintre, ni un homme de lettres.
Ni un peintre, ni un
c'est un poète, un musicien.
Nous allons dire que M. Joël a tout de même gagné. Parce que vous allez citer un grand nombre.
C'est un musicien.
C'est un musicien.
Et c'est un musicien français?
Oui. Et c'est pourquoi?
Et c'est Berlioz ou pas?
Non, et comme ce n'est ni Berlioz, ni
Debussy,
et comme ce n'est pas Gounod, et comme c'est Fauré...
Il était très fort.
Eh bien, je puis vous dire...
Gounod était vraiment très près. Vous savez, moi, je trouve que nous avons gagné avec Gounod. C'était tellement
près. Oh, non.
Les convictions religieuses. Oh, le requiem.
Pas seulement. Il a été à la Schola Cantorum. C'est l'école religieuse à laquelle il était fait allusion. En dehors de ça, on nous dit qu'il dénonça publiquement l'injustice des membres de l'Institut qui avaient écarté systématiquement du concours de Rome son élève Ravel. Et
c'est très bien. Bonne chose.
Eh bien, voici un portrait qui a été gagné par un auditeur. Vous êtes donc toujours 3 à 1.
Oui.
Nouveau portrait envoyé par M. Link et compagnie, rue Saint-Bernard à Paris.
Comment et compagnie?
Il y a Link et compagnie.
Ils se mettent en syndicat pour faire ça.
C'est un portrait de famille.
Ah, ils se disent que nous réceptionnons à plusieurs et qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'expédient pas à plusieurs.
Car à nous.
C'est une puissante personnalité du XVIe siècle, pétrie de contradictions. Je crois que vous le trouverez très facilement. Une peinture du musée de Bâle le représente massif.
C'est...
Non.
Erasme. Justement. C'est Erasme, mais comme lui-même massif. Oui.
L'épée au côté, le poing sur la hanche, un rayon
Giallini.
Giallini. Non. Un rayon de lumière en plein visage.
Non, c'est un portrait d'Holbein.
Oui.
Il est agressif et loyal. Le front étroit et haut garde de la douceur et du rêve. Mais une grande oreille de diable s'appuie sur la collerette et sur la barbe.
C'est pas Mélenchon?
Non plus. La lèvre se retrousse en un mouvement de défi et tout le visage s'élargit vers la mâchoire qui exprime toute la solidité de l'homme.
C'est pas Charles Quint?
Non plus.
Non, mais il y a un portrait d'Henri VIII.
S'il est connu pour une autre activité, il fut avant tout un homme d'épée. Un grand prince, charmé de sa bravoure, de l'originalité de son esprit, de la noblesse de son caractère.
Montluc ?
Non plus. Lui voua une amitié que n'altérèrent jamais les écarts d'une franchise souvent imprudente.
Un grand prince ?
Crillon.
Vous regretterez beaucoup de ne pas l'avoir trouvé.
Nous regrettons déjà.
Oui,
il avait au plus haut le sens de l'honneur. Même quand ses haines, qui étaient attisées par son père, étaient des plus vives.
Ça devrait être Daubigné, mais...
C'est Daubigné.
Dites donc, là. Ça, c'est bien, Bert.
Manuel Bert l'a gagné.
C'est très bien.
Et qui est le portrait?
Le portrait de M. Link et compagnie.
Non, la peinture.
Pas
de Clouet et compagnie. Le Holbein, frère.
je ne m'inquiète, c'est que je cherche ce portrait.
Pourquoi est-ce que Berlet est un style en société?
Mais moi, je trouve que les portraits sont assurés. On ne nous a pas dit qu'il dormait sur un canon quand il était petit. C'est pas lui qui dormait
sur un
canon.
Non, c'est pas lui, c'est Turet.
Ah non, non, Daubigny a fait des choses aussi avec des cordes de garde.
Oui, mais je crois pas avec des canons.
Daubigny a fait également un verre qui est très connu.
Il a sauté dans le feu.
Ah, il y a des choses très bizarres quand il était petit.
Il était dans les enfants célèbres, on le voyait.
Oui, il y a des enfants célèbres.
Il sautait dans le feu.
Ce qui est rare pour un général.
Il n'était pas général.
Oh, il aurait pu, quoi.
Et quel était le prince qu'il aimait tant?
Oh, je crois que c'est Henri IV.
Henri de Navarre qui devint Henri IV. On nous rappelle d'ailleurs le vers de Daubigny qui est célèbre, une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. Et on nous cite le vers qui rime avec celui-ci que personne ne connaît.
Dis.
Du moins, personne ne le connaît, beaucoup c'est inutile de prendre ce ton interrogateur.
Le distique est celui-ci. Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. Vous avez éjoui l'automne de l'église.
Jamais j'ai entendu un militaire parler comme ça.
Ah, évidemment, beaucoup moins. Portrait envoyé par M. Robert Langer, avenue de la Reine à Versailles. À 18 ans, lorsqu'il fut admis à l'académie, il avait une haute idée de lui, assurément justifiée. D'où le dépit qu'il eut d'une décision d'un de ses maîtres. Sa réputation grandit vite, et vers la quarantaine, elle lui valut un poste important, qui lui donna pendant longtemps de grands avantages, mais qui faillit ensuite lui tirer de graves ennuis.
C'est Aristote.
C'est Aristote.
Ah, voilà où le philosophe se retrouve.
Bien trouvé. Ah, ouais. Ils sont en train de remonter.
Il remonte.
Non, mais il y a la philosophie, alors.
Parce que pour entrer à 18 ans à l'académie, il fallait que ce ne fût pas en France.
Ce n'était pas l'académie française.
Comment il y avait des princes qui
devaient vivre en France.
J'ai
demandé à 14 ans. Oui. À 14 ans.
À 14 ans.
On est entré à 14 ans.
Non, mais ce n'était pas l'académie française.
On en sortait beaucoup plus vite pour entrer dans la mort, parce qu'on mourait plus.
On commençait tout plus tôt.
Beaucoup plus tôt.
Avec le concours d'Aristote, l'équipe masculine a rattrapé l'équipe féminine. Voici un portrait extrêmement difficile.
Attention. Ah bon.
Et d'ailleurs, fort bien écrit, mais une écriture qui marque une très grande personnalité.
Et qui ne peut pas lire, c'est ça que ça veut
dire. Il est envoyé par M. André Corbier, 26 rue Lavoisier, à Grenoble.
Lui tout seul.
Il vécut au temps de Jeanne d'Arc et fut archevêque duc de Reims. Un de ses frères fut chancelier de France. Leur grand-père était drapier à Troyes. Il fut un de ces hommes en qui l'on peut saluer un père et un devancier de la Renaissance, dont il évita la dureté. Homme d'église, très appliqué aux devoirs de son État, bourgeois attaché à ses traditions, il eut avec une avance de 100 ans toute la force et la subtilité d'esprit et tout le réalisme des grands Florentins.
C'est Jacques Coeur.
Non.
Non, c'est à Bourges.
Il était parchevêque.
Il était parchevêque.
À cette époque-là, tout le monde était un peu tout, quoi.
Alors, attendez.
Mais c'est pas fini.
Ce n'est pas fini. Ce prélat, qui sacra plusieurs rois, révérait en eux le principe du bien public.
On ne peut pas dire qu'il ne donne pas de détails.
Nul mysticisme dans sa pensée politique.
Alors il y a le cardinal Duprat.
Non, il vous donne même une citation.
Dites alors.
Souvent advient, écrit-il, qu'un homme aura en son opinion ou imagination une chose qui sera bien fondée, et toutefois il trouvera par expérience qu'elle sera inutile.
C'est Monseigneur Dupanloup ?
Non, c'est pas
par expérience, il a trouvé que cette chose était inutile.
Ça se chante.
Est-il français?
Oui. Écoutez, si on fait sacrer les rois de France par les cardinaux étrangers, c'est le con.
C'est pas en somme, c'est le cardinal.
À cette époque-là?
Oh, on ne sait jamais.
Oh, oui.
Je me demandais s'il n'y avait pas un piège.
C'est lui, comment s'appelait-il? Écoutez, vous savez bien que comment s'appelait le cardinal Cassacre.
On connaît Charles VII, on ne connaît jamais le nom de
Jeanne d'Arc.
Le seul homme
d'église
vraiment célèbre à l'époque de Jeanne d'Arc, c'était Cochon.
Mais ça n'est pas lui.
Il était lui.
C'est exactement le contraire. Science, par rapport à Cochon.
Mais c'est anti-gouvernemental.
Non, il était très gouvernemental, mais c'est lui qui a fait réviser le procès de Jeanne d'Arc. Voici la fin de la citation. « Sciences qui sont de présent écrites ont été sues par expérience de fait et est, l'expérience, la maîtresse des choses. À l'une des heures les plus troubles de notre histoire, il montra une lucidité d'esprit politique qui doit lui conquérir la reconnaissance des patriotes. »
Vous entrez dans les précisions. Savoir qui c'est.
Pour lui être reconnaissant.
Deux prétendants se disputaient le trône de France, le futur Charles VII et l'anglais Henri de Lancastre. Aux partisans de Charles, qui tenaient la campagne, nous dirions aujourd'hui le maquis, les premiers alliés de notre histoire opposaient déjà la légalité et la sainteté des formes constitutionnelles. Celles-ci favorisaient le prétendant anglais. Dans cet embarras, les légistes, greffiers muets en docteurs politiques, consultaient leurs papiers comme ils eussent interrogé les astres ou les entrailles des victimes. Un cas de politique nationale était traité par eux suivant les règles de la chicane. Ils prétendaient départager Charles et Henri quand la France était seule en cause.
Notre on ne sait pas son nom, quoi. Disons-le, nous ne savons pas son nom, puisqu'on sait qui c'est.
Si long qu'on nous dise qui c'est.
Nous dit son nom, puisque nous savons qui c'est. Nous ne pouvons pas trouver son nom.
Moi aussi, je l'aurais trouvé si je savais.
Tout plutôt que de continuer à entendre des choses pareilles.
Son choix se décida pour le régime qui lui a recommandé sa doctrine.
Ah, il veut nous instruire, il a raison, nous en avons
besoin. Ce prélat historien mourut à Reims en 1473.
Nous ne savons
pas. Il s'appelait comment en mourant ?
Eh bien, en mourant, il s'appelait comme à sa naissance. Pardon ?
Ça pourrait être Commine, mais c'est pas.
Ce n'est pas Commine. Ah non, Commine. C'est Jean Juvénal des Ursins.
Oh ! Pas très longtemps ! Oh ! Je le savais. Avec le portrait. Oh là
là là là là. Ça, c'est bien inexcusable pour moi.
Ça, c'est honteux.
C'est tout à fait pardonnable pour moi.
Auteur d'une chronique de Charles VI qui révisa le prospect.
Non, c'est d'autant plus inexcusable d'abord parce que j'ai lu sa chronique et puis ensuite parce qu'il y a
Fouquet,
et puis parce qu'il y a Bertrand de Jouvenel que j'ai vécu devant le portrait de ce Juvenal des Ursins.
Aïe, 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 aïe.
Ça, c'est effrayant.
Ouais. On ne peut pas tout savoir.
Vous êtes encore à égalité. Et nous allons essayer de vous départager par un dernier portrait. Il fut un écolier fantasque et indiscipliné. Il montra tout d'abord des aptitudes remarquables pour les lettres et la philosophie.
C'est Clavel, ça.
Mais bientôt, il se voit entièrement à son art, qu'il possédait à 20 ans, ainsi qu'une culture littéraire d'une qualité exceptionnelle.
Quel est son art ?
Rimbaud.
Son caractère était difficile, son orgueil démesuré.
Constant, Benjamin Constant.
Et son égoïsme total.
Wagner.
Wagner. Bravo, Madame Simone.
On est battu sur le poteau.
Vous êtes battu sur le poteau. Madame Simone, je ne peux pas vous demander de chanter la chevauchée des Valkyries.
Hey vous... Faudrait pas la pousser.
Allez-y, quoi.
Ah, oh, mon Dieu, s'il n'était pas si tard.
On nous dit à la fin, d'ailleurs, ce séducteur qui n'avait qu'un signe à faire pour que les femmes abandonnent tout pour le suivre dans la bonne comme dans la mauvaise fortune...
C'est drôle, on n'en rencontre jamais des comme ça.
...était de petite taille, peu élégant, avec un visage revêche aux traits durs.
Il paraît qu'il se faisait faire des robes chez Redferne quand il avait une liaison avec le roi de Bavière.
Vous vous rappelez ?
Oui. J'ai vu ça dans les livres de notes de la maison Redferne. C'est des costumes de théâtre, c'est curieux.
Il a dit un mot admirable au moment où il a commencé Tristan. Rappelez-vous ce qu'il a dit ?
Non.
Il a dit « Je ne crois pas à l'amour, mais je veux tout de même élever un monument à ce plus beau des rêves. »
Oui.
C'est beau.
Alors, applaudissons la phrase de Wagner et la victoire de l'équipe féminine.
Ah, c'est vrai, il a entendu. Ah,
vous avez entendu « Jouons le jeu », une émission d'André Gillois. En dehors des personnes qui vous ont été présentées en cours d'émission, participaient à « Jouons le jeu » Denise Noël de la Comédie-Française, Rosine de Réan, René Clermont et Jean Vinci pour les scènes de théâtre. Irène Joachim et Jean Giraudeau pour la partie chantée. Orchestre sous la direction de Jean Viennaire. Le montage a été réalisé par Jacques Guinchard. Collaborateurs divers, Maurice Béard, Pierre Billard, Sylvie Lebrise, Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet, Atara Fels, Jean Guyot, Gaston Morphée et Alain Alliou. Speaker Bernard Marsay. La semaine prochaine, l'égoïsme avec Henri Janson.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 31 octobre 1951 sur la chaîne parisienne. Après l'impatience, rendez-vous avec l'égoïsme la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.